pour investir, le coffre-fort.
Allez, 11h47, le coffre-fort pour terminer. Alors, on va parler des cartes Pokémon. Bah oui, la franchise fête ses 30 ans et vous savez quel est l'engouement depuis des années pour les fameuses cartes Pokémon. Pas que les cartes Pokémon, mais notamment les cartes Pokémon. On va en parler avec nos invités. François Thierry, bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue, expert en cartes de collection chez Agut. Et puis Pierre-Louis Prisse qui est avec nous. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Auteur de Les Pokémon, le guide universel du collectionneur aux éditions Gilles Pierre. Tout premier livre de référence sur la collection des cartes Pokémon. Il est ici. Voilà, montrez-le à la caméra. Qui est ici, juste en face de vous. Mais c'est une encyclopédie à part entière. Enfin, c'est
exactement,
impressionnant.
Elle fait 3 kilos, 480 pages de plaisir pour les passionnés de cartes Pokémon.
Parce que la licence fête ses 30 ans cette année, c'est ça?
Exactement,
ouais,
tout à fait. Elle fête ses 30 ans et donc il y a 2 ans, on a décidé avec un ami de rédiger cet ouvrage de passionnés pour les passionnés. Et donc voilà, c'est vraiment un ouvrage qui parle des cartes à collectionner françaises.
C'est assez incroyable. C'est une des licences les plus rentables de l'histoire. Je crois que j'ai vu, c'est une franchise qui dépasse déjà les 126 milliards de dollars de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Il y avait un Pokémon Day, d'ailleurs, c'était le 27 février, c'était très, très récemment. On va parler un petit peu de ce phénomène. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. On est tous, enfin, beaucoup de... plus ou moins jeunes d'ailleurs sont détenteurs de cartes Pokémon, François.
Enfin, oui, pas, on voit nous au niveau de nos ventes aux enchères, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant des investisseurs qui ont 20-25 ans que des investisseurs de 60-70 ans.
Ouais.
Donc c'est très très large, tout le monde s'intéresse aux Pokémon. Alors évidemment, généralement on s'y intéresse parce qu'on y a joué à l'école par exemple.
Bien sûr.
Ou alors parce qu'on a des enfants qui y jouent.
Ouais.
Et quand on commence à se plonger un peu plus dans le milieu, on se rend compte qu'il y a des valeurs qui sont assez exceptionnelles pour des cartes.
Ouais.
Et les investisseurs n'ont pas l'opportunité.
Depuis quand on collectionne les cartes?
Depuis 1996 au Japon, 1996-1997, et en France, c'est arrivé un peu plus tard, en 1999.
Et le profil des collectionneurs, il a évolué comment au fil des ans?
Eh bien, écoutez, en réalité...
Les jeunes d'hier sont les vieux d'aujourd'hui.
Exactement, c'est très intergénérationnel.
Entre autres, ouais.
Exactement, intergénérationnel. Aujourd'hui, on a les plus jeunes générations, comme disait François, qui continuent à collectionner, et des personnes un petit peu plus âgées, et de plus en plus âgées, qui collectionnent également.
Comment on explique ce phénomène absolument délirant? Enfin, c'est quand même...
Eh bien, c'est
très, très grand public, c'est-à-dire que actuellement, quand vous avez un enfant qui est à l'école, vous ne pouvez pas rater des Pokémon. C'est-à-dire que tous les enfants veulent acheter des Pokémon. Vous allez dans un magasin spécialisé, on vous prend un paquet. Vous allez au supermarché, on essaie de prendre un paquet parce qu'on va pouvoir les échanger aussi avec ses amis. Et puis après, quand on grandit, en fait, on commence à, dans la vie active, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on gagne enfin.
Oui.
Et on se replonge un peu dans les passions d'enfance et les Pokémon en font partie. Et c'est pour ça que c'est un peu une passion sans fin.
Alors, question évidemment de base. J'ai des cartes Pokémon chez moi qui datent d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Comment je fais pour l'expertiser déjà, François, pour commencer, première chose?
Alors, la meilleure chose à faire, c'est de se renseigner auprès d'un magasin spécialisé, soit d'une maison de vente aux enchères comme nous, on a un département spécialisé.
Il y a de plus en plus de magasins spécialisés. Hein,
il y en a beaucoup, en effet.
Oui.
Ils permettent d'authentifier au moins les cartes pour savoir si c'est des vraies cartes, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses.
Ouais.
Et puis, une fois qu'on a authentifié les cartes, là, on a 2 solutions. Soit on veut les garder et faire une collection, garder sa collection, ou alors on veut la revendre. Et puis là, pour la revendre, il y a plusieurs solutions possibles. On propose, nous, les ventes aux enchères. Ça permet de mettre en concurrence tous les acheteurs possibles et d'atteindre normalement le meilleur prix possible.
Ouais.
Ou bien, si vous êtes plus pressé, pourquoi pas aller en magasin pour les revendre. Il y a plusieurs solutions, ou faire des échanges avec d'autres personnes aussi.
Ouais. Vous proposez, suggérer, c'est comme tout, d'aller dans plusieurs magasins, éventuellement, pour comparer les devis.
Comparer les prix, alors automatiquement, les magasins ont des marges à faire. Donc,
bien sûr.
Évidemment, évidemment, les prix, ce n'est pas forcément plus intéressant. L'intérêt de passer par une maison de vente, si vous voulez, c'est que nous, on est tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on est là pour faire une expertise, pour donner un prix d'estimation réel. Et ensuite, c'est aux acheteurs de la maison de vente de faire eux-mêmes le prix.
Oui, oui, Pierre-Louis, allez-y.
Non, mais exactement, tout ce que François a dit est juste. Aujourd'hui, il existe aussi beaucoup d'outils digitaux. C'est vrai qu'on peut trouver également sur des plateformes qui sont très célèbres. Alors, je ne vais peut-être pas les citer sur votre enchaîne, mais en tout cas, voilà, sur Internet, vous pouvez également regarder les cartes qui ont été vendues.
Ouais.
Ça va vous donner également une idée. Et bien entendu,
dans le guide universel.
Voilà, le guide universel, vous avez tout.
Comment est-ce que la cote a évolué depuis quelques années, finalement?
Alors, c'est toujours très, très positif.
Avec l'ancienneté, voilà.
Exactement. Plus la carte est rare, plus il y a des chances que la carte ait de la valeur. Plus elle est ancienne, rare et bien conservée, et plus vous êtes proche du jackpot.
Qu'est-ce que vous appelez jackpot? Voilà,
jackpot, c'est-à-dire qu'on a des cartes. Il y a une carte récemment qui s'est vendue aux États-Unis il y a moins d'un mois à 14 millions d'euros. Un Pikachu Illustrator. Il y en a 40 dans le monde. 14 millions d'euros, ça parle.
Maintenant, vous allez faire un tour à la CAF ce week-end.
En France, on va se rapprocher de ce genre de carte.
Attendez, ça vaut combien ça ?
Ça, dans cet état-là, on est aux alentours des 6 000, 7 000 euros.
Exactement, entre 5 et 10 000 selon les périodes. Et ce qui est très très fort avec la franchise Pokémon, c'est que quand ils sortent des nouvelles éditions, comme Pierre-Louis a par exemple deux nouveaux boosters, on appelle ça des boosters, donc des paquets de cartes, vous avez la possibilité, quand vous l'ouvrez, de tomber déjà sur une carte qui vaut plusieurs centaines, voire milliers d'euros.
Aujourd'hui encore, oui.
Exactement. C'est-à-dire que là, si vous en ouvrez un, si on vous le donne, peut-être que vous allez être content. Voilà, très content.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est plus à peine de jouer au loto, vous avez trouvé l'alternative.
C'est
au jeu de grattage et de tirage. Alors, comment est-ce qu'on vend ? C'est ça qu'on va expliquer un petit peu une fois qu'on a décidé de vendre, une fois qu'on a fait l'expertise. Comment est-ce que ça se passe concrètement ?
Alors, en général, comment ça se passe ? les gens me contactent.
Oui.
Je fais donc une expertise, une estimation.
Oui.
Ensuite, nous.
Ça peut se faire en magasin chez vous, mais ça peut se faire en magasin. Mais on vient chez vous parce que.
Et on organise 3 à 4 ventes par an, de ventes aux enchères. Donc, on récupère les. Comme tout autre département, on récupère les cartes, on les prend en photo, on les estime, on les met dans un catalogue, on communique dessus. On a déjà une grosse base de données d'acheteurs en France, notamment. Et puis ensuite, on les propose aux enchères, très simplement.
Ouais. Oui, Pierre-Louis, oui.
Tout à fait, exactement. Ouais. On peut passer par les maisons de vente aux enchères. On peut également passer par les boutiques, comme François a dit tout à l'heure. Vous avez plein de moyens aujourd'hui qui sont à la disposition des collectionneurs et des intéressés pour commencer à la collection.
Est-ce que c'est imposé ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des velléités récemment éventuellement
d'imposer ? Il y a plusieurs choses.
Oui, on a vu ça très récemment. Hein. Il y a des... oui.
Parce qu'il y a des... En fait, le terme collection s'apparente, c'est des cartes de collection et pourtant toutes les cartes ne sont pas forcément de collection. Ce qui s'apparente à de la collection, ce sont des cartes qu'on ne trouve, selon moi en tout cas, plus en magasin ou qui ont déjà plus de 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous ressortez une boîte, par exemple, qui n'a pas été ouverte, scellée encore d'origine des années 2000, on peut vraiment apparenter ça à de la vraie collection. Par contre, si vous achetez des boîtes en magasin actuellement et que vous le déclarez en tant que collection, ça ne passe pas. Et donc là, il y a une imposition à 30%. Et quand vous passez par une maison de vente aux enchères sur des objets qui sont catégorisés comme collection, vous êtes sur les impôts classiques à 6,5%.
Oui, c'est ça. Donc, ça, faut bien l'avoir en tête, évidemment. En combien de temps vous avez constitué votre guide ? Je suis épaté par le...
Merci beaucoup. Eh bien, on a travaillé.
Il est imposant.
On a dormi un peu moins, comme je disais à François. On a beaucoup, beaucoup travaillé pendant un an. C'est vrai que c'est un recueil qui vient donner aussi une base pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la collection. Puisqu'aujourd'hui, comme on l'a dit, parfois, ça peut paraître un petit peu compliqué de se repérer. Donc vous pouvez vous repérer dans le temps, vous avez toutes les infos nécessaires dans cet ouvrage et toutes les infos également liées à la fiscalité, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique, mais effectivement, c'est l'imposition est de 36,2% depuis maintenant quelques temps.
Non, mais enfin, on est en train de parler d'une potentielle future valeur refuge, là.
Valeur alternative.
Valeur alternative, vous dites.
C'est-à-dire qu'il faut pas investir évidemment tout son argent dedans. Parce que,
c'est ça, un actif alternatif.
C'est un risque important.
Oui. Non, mais pour quelqu'un qui veut diversifier un petit peu,
c'est génial.
Exactement. Après, je conseille quand même à toutes les personnes qui ne sont pas dans Pokémon actuellement et qui souhaiteraient investir dedans, de se renseigner quand même un maximum.
Alors,
avant.
C'est la question. Est-ce que c'est une science que l'on apprend, que l'on intègre année après année ? C'est une
exactement. C'est une science qui s'intègre année après année, et je pense que
rien que de parler de science, moi, je m'étonne. Mais oui, ça vient de ça en fait.
C'est ça. C'est la pop culture, et comme dit François, en fait, il faut réellement s'intéresser profondément. C'est-à-dire que il n'y a pas de secret miracle. Hein. Il faut vraiment s'y intéresser. Il faut prendre le temps. Il faut apprendre. Et ça peut mettre parfois un peu de temps. Mais en réalité, aujourd'hui. Tout est disponible, toutes les informations sont disponibles, mais il faut vraiment s'y intéresser.
Exactement.
Pour vraiment pouvoir sereinement.
Et pas hésiter à demander des conseils à des professionnels.
Exactement. Et pas hésiter à demander des conseils, ça se travaille, c'est comme le trading, c'est comme tout finalement.
Exactement.
Donc voilà, on est dans la ligne de ce qu'on raconte tous les jours sur BFM Business. Donc vous dites 4 enchères, mises aux enchères par an, ventes aux enchères.
Entre 3 et 5.
Entre 3 et 5 sur Paris.
Voilà. Oui, exactement, on est à Neuilly.
Vous êtes à Neuilly, ouais.
Mais après, c'est dématérialisé, c'est-à-dire que tout le monde peut enchérir, que vous soyez
tout
en
Australie. Tout le monde peut enchérir, qu'on soit chez soi.
Au Groenland, ou à Paris.
Et ben voilà, la saga des cartes Pokémon, l'alliance qui fête ses 30 ans cette année, et donc toujours autant d'engouement autour de ces cartes à collectionner. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir pour faire ce topo très intéressant. François Thierry, expert en cartes de collection chez Agut, et puis Pierre-Louis Price, donc auteur de Les Pokémon, le guide universel du collectionneur aux éditions Gilles Pierre. 300 et quelques pages.
Merci beaucoup.
De quoi se documenter en long, en large, à travers sur le phénomène Pokémon. Merci, messieurs.